France Inter.
Avec Lisa, la moitié Maudi Fontaine, Jean,
bonjour,
Bassureau, Daniel Morin,
coucou Mélodie,
et vos invités Constance Gay,
Je
croyais pas. Moi.
Face à face et, et côte à côte.
Pardon.
Il y a déjà plusieurs épisodes qui sont passés, plusieurs saisons même qui sont passées.
Là, Quatre saisons au moins. Ouais.
C'est passé à une vitesse.
Bah, j'irai vite.
Claire, es-tu une habituée de cette émission ? Ravie de vous retrouver. Constance, c'est la première fois. Faites un vœu. Face à face, l'histoire d'une sororité qui se retrouve à travailler ensemble. L'une est commissaire, l'autre est juge. Petit tour de table, seriez-vous capable de travailler en famille ?
Elle est commandante.
Elle est commandante, pardon.
Oui.
Vous êtes quand même juge.
Hein, moi, je suis juge.
Ok, d'accord. Oui. Lisa, possibilité de travailler avec frère, sœur, papa, maman.
Oui, je crois.
Ça t'est déjà arrivé ?
Non.
De bosser en famille ?
Non, non, parce que je pense pas que mon business les intéresse.
mais non, inversement.
Inversement. Mais non, je pense qu'on pourrait parce qu'on est très honnête. Du coup, je pense qu'il faut, faut juste être capacité de dire les choses.
Ah, oui. Mélodie, toi, tu bosses un peu en famille avec ton mec ?
Ah oui, avec mon mec, mais j'ai voulu bosser avec mon père et il m'a viré.
Tu l'as poursuivi,
j'étais à l'accueil, il est médecin et je supporte pas le sang et il recevait des échantillons et je tombais dans les pommes. Et je raccrochais au nez des gens, tu sais, qui me disaient ça, suis un, je te dis, ah, quel enfer! Et du coup, je me
suis dégagé. Ah, ça, c'est quel enfer?
Non, impossible. Impossible. Je les aime d'amour, mais justement, parce qu'on travaille pas ensemble, quoi. Je pourrais pas.
Okay.
Il y aurait trop d'ego et tout, je me vexerais tout le temps, enfin, c'est pas possible.
Mmh. Leïla, travailler en famille.
Ça s'est jamais produit, mais je crois que j'aurais adoré travailler avec mon père. Enfin, je travaillais déjà avec mon père enfant, quand il bricolait, tu vois.
Ouais, c'est ça.
Parce qu'il était bon, il expliquait bien. Il était pas très patient, mais il expliquait très bien. Donc c'était
non,
super.
Mais après, c'est vrai que le full time avec éventuellement le petit reproche, je peux comprendre l'hésitation.
C'est dur.
Oldelaf?
Moi j'ai travaillé les maths avec mon papa. C'était un très bon prof de maths. Il me faisait travailler les maths.
C'est
super.
Non, c'est pas pareil.
Il est pas concentré. Mais grâce à ça, je suis devenu un grand mathématicien.
Non.
Ça marche pas.
Ça te sert beaucoup au quotidien.
Exactement. Je calcule tout.
Maths et musique, c'est très proche.
Ah,
Daniel?
Non, impossible. Déjà, j'aime pas voir ma famille de façon récréative, donc non. Je peux pas, j'essaye de couper les ponts.
C'est fou, ça.
Ouais, je ne veux pas rien d'en parler, ça m'agace.
Moi, je suis sûr que non seulement je pourrais, mais j'ai envie.
Ah bon?
Mais est-ce que les autres ont envie?
depuis quand ça compte, quand Agui a décidé, tu fais.
Non, je me verrais bien, tu vois, avec un resto.
Avec qui de ta famille?
Un bar sur
tes
une
enfants,
plage. Ouais.
Ah.
Oui, mes enfants.
Mmh. Pas
oui,
une
pas avec
télé.
Ma femme, t'es fou.
Non, mais ton frère.
Non, je blague. Non, j'ai déjà bossé avec elle. Non, au contraire.
C'était mal passé. Hein.
J'aime bien l'exercice de cloisonner, c'est-à-dire de faire l'effort de se dire là, on est au boulot, donc il n'y a plus les mêmes rapports, il n'y a plus les mêmes.
D'où cette plainte pour harcèlement.
D'où ce bracelet électronique que je porte.
Et ça, c'est difficile pour les enfants quand même. Parce que toi, tu cloisonnes en tant qu'adulte, mais ton enfant, ça reste ton enfant, je pense.
Ouais,
donc les rapports, je pense que c'est pas facile.
C'est vrai qu'il faut leur poser la question. Mais l'envie, en tout cas...
Oui, c'est bien de leur poser la question quand même dans l'inconscient.
Et ça, c'est nouveau pour lui.
Vous pourriez travailler en famille ou pas ?
Pas du tout. Du tout. Non, pas du tout. Déjà, ils sont tous très matheux, donc bon, on n'a jamais parlé le même langage.
Hein. Okay.
Et la famille, c'est trop. Enfin, ils me disent bonjour, je le prends mal.
Ils me disent,
s'il te plaît, j'ai l'impression d'être la pire des femmes sur Terre. Non, c'est impossible, mais
d'accord.
Impossible.
Ouais, ça s'entend.
Moi, j'adorerais bosser avec mon petit frère. D'amour, mais indépendance, l'indépendance.
Claire,
j'adorerais bosser avec mon petit frère. Bon, là, il a des responsabilités bien plus importantes que les miennes, donc il n'a pas le temps. Mais j'aimerais bien, je suis sûre que je m'entendrais bien avec lui.
Dans quel domaine, si vous travaillez ensemble, quel serait le
domaine
commun ?
J'aimerais écrire avec lui.
Okay.
Ah ouais,
un jour, c'est joli ça. D'accord. Ok.
Et voilà. Ta fille aussi, non, un peu quand même.
Ah oui, 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 ça c'est ma. Mais après, c'est pareil. Je suis pas sûre que mes enfants aient envie.
J'ai des enfants. Claire Borotra, Constance Gay pour Face à Face. C'est depuis le 6 janvier sur l'antenne de France 3. Deux épisodes passeront à nouveau mardi prochain. Ça sera à 21h10. Mais et l'intégralité est déjà évidemment sur France.tv. On s'est fait un plaisir, nous, de binger Face à Face. On en parle jusqu'à midi et demi. Voici Hold de la Fan de Constance Gay.
Je suis fan de Constance Gay. Daniel trouve que dans les médias il y a une Constance Gay. Sauf que là c'est une des toutes meilleures comédiennes de France. Alors on est tous aussi gays, c'est une joie immense. Je suis fan de Claire Borotra. Je suis tellement heureux que vous soyez là. Vous êtes venus en chair en os, pas avec votre IA, votre double du futur, Claire Borotra. Et vous êtes ici pour la série Face à Face. C'est comme jouer à pile ou face avec une pièce à une face. Du coup tu gagnes tout le temps si tu penses à dire face. Si tu dis pile quand même, c'est que t'es complètement con. Vous êtes toutes les deux demi-sœurs. Deux demi-sœurs, du coup, ben ça fait plus qu'une seule sœur. Est-ce qu'on vous paie juste c'est avec des demi-caches? Et encore, c'est pas le pire de ce qui pouvait vous arriver. Ouais, ouais.
Wow.
Ouais.
Dans la place.
Un 6, l'arrondissement. Yes. Représente. On choisit ni son origine, ni sa couleur de peau, ni d'ailleurs jamais flic quand on rêve d'un boulot. Pourtant Vanessa Tonslin est commandant chez les perdreaux, elle sait que c'est son destin, elle a pas peur pour sa peau, malgré sa juge de sœur, jouée par Claire Borot, qui lui fait pas de fleurs, qui lui fait pas de cadeaux. Y'a un truc bien galère, qui l'a fait flipper trop, c'est Marianne James, sa mère. Wow. Face à sa mère, on peut défailler. En face à sa mère, on peut frappe, je crève. Oh, je suis fan de vous, je suis trop content d'être là. Pour une fois que deux femmes sont folles de loi. Vous êtes nos invités, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec mes chansons, la bande originale.
Laf en live
et sur scène pour Opération Bretzel, ce sera le 18 janvier à Lille, le 31 janvier toujours à Toulouse, et à Paris ce sera au 3 Baudet le 18 février.
La juge donc et sa sœur, la juge Justine, sa sœur Vanessa dans la série, avec en effet la présence de maman Marianne James.
Ça fait.
Avec en effet au casting de cette série également Clémentine Justine, Clément Aubert, Amir El Kassem, Evelyne El Garbi, Frédéric Chalk, Hamza Baramou et Kamel Belghazi entre autres, avec une mécanique assez précise parce que il y a une histoire qui se déroule sur une saison, un fil comme ça. Il y a chaque fois quand même des énigmes qui sont résolues épisode après épisode, mais il y a une évolution des personnages, et toujours ce que j'aime aussi beaucoup dans cette série, l'article de loi, le prisme qui démarre, qui fait que on sait un peu dans quel domaine on va arriver. On a nous-mêmes connaissance de la loi et on sait ce qui est possible et pas possible, notamment sur la garde des enfants par exemple. Ah ouais. Pour le prochain épisode en Allemagne. Incroyable cette
avec
loi.
Avec un conjoint allemand. Ouais. C'est le natif qui a la priorité sur la garde de l'enfant. Mmh. Fou, hein.
Incroyable.
Faut y réfléchir avant de faire un enfant.
Avec un allemand, déjà à la base.
Non, mais non, arrêtez.
Déjà, quand on est allemand, ça prend des risques.
Non, il va falloir qu'on soit unis, quand même. Il va falloir qu'on se réunisse un peu. Vu le contexte international.
Non, mais j'espère ne pas spoiler, parce que je ne sais plus dans quel ordre les épisodes vont passer. C'est le prochain qui va passer avec cette énigme sur l'Allemagne, c'est ça?
Oui, je pense.
C'est la première.
Je pense que c'est le prochain, ouais.
Je crois, ouais, c'est ça.
Quelqu'un qu'on se renseigne en régie.
Non, c'est bien ça. Donc, c'est le point de départ. On voit cet article de loi avec quelles sont les conditions de la garde partagée et comment l'enfant est forcément donné à celui qui, des deux parents qui est né en Allemagne au cas où les deux parents ne soient pas allemands. Et puis après, on enchaîne sur, j'ai envie de dire, une scène de crime et puis une enquête qui démarre, mais on comprend en tout cas que cet élément sera important à la compréhension de l'histoire.
Oui, oui, c'est la caractéristique exactement de cette série, c'est de faire un peu de pédagogie aussi, et quand on comprend les lois qui régissent le vivre ensemble, on comprend mieux où on vit, et avec qui, et comment, et pourquoi, et donc oui, ça fait partie de ce qui caractérise la série.
La sœur, enfin, entre sœurs, il y a cette tension, cette électricité, il y avait aussi, il y a des épisodes où la mère venait squatter l'appartement aussi, il y a un vrai problème de literie quand même, c'est qui dort où entre
mais c'est une très grande maison.
C'est ça. Oui, mais pourtant elle va sur le canapé de temps en temps. Oui.
Parce qu'on n'a pas le droit d'aller dans toutes les pièces dans cette maison. Voilà, c'est des petits soucis de décor. Ouais.
Non, mais c'est vrai, problème de couple aussi avec et ça fait partie de l'histoire entre guillemets de la saison, c'est que la juge a tout fait pour protéger sa sœur et son conjoint.
Son nouveau.
Vas-y.
Oui, pardon. À la fin de la série, oui. Je suis toujours dans mon cerveau. Il y a pas de spoil. Donc j'oublie les derniers épisodes. Bah oui, ma sœur sera toujours là pour me défendre, même s'il faut.
Non, mais sans aller à la fin de la série, il a quand même fallu le conjoint. Il y a un problème avec le conjoint de la, avec votre conjoint dans la série.
Ah bah oui, il y a un gros problème.
Il y a une tension déjà.
Déjà il y a une tension sans conjoint. Bah disons que. C'est pas le...
Je parlais dans la série.
Attention intérieure déjà.
Non, disons que c'est pas le beau-frère idéal, quoi. Oui. Quand on a un volcan comme Vanessa Tancelin et qu'elle se mac avec un voyou, on se dit que l'alchimie, enfin, voilà, ça va être compliqué pour Justine Rameau qui est dans ses petits.
Et l'amour que Justine a pour sa sœur va la forcer à faire des choses contre lesquelles elle s'est battue toute sa vie et transgresser ses principes.
C'est un amour qu'elle ne déclare pas vraiment, c'est-à-dire que elle réagit presque par réflexe, par amour, oui, par instinct, sans forcément le montrer. Il n'y a pas de grands ébats entre les deux frangines.
Le personnage de Justine évolue vachement.
Déjà.
Le personnage de Justine évolue vachement parce qu'en saison 1, elle est comme ça, elle ose pas dire ses sentiments, ses émotions, tout ça. Et puis, on se dit « je t'aime » quand même, en saison 3 notamment.
Oui, oui. Et puis après, c'est des sœurs. Enfin, c'est dans les fratries, on l'a tous vu.
On se dit pas souvent « je t'aime
».
Non, c'est dur de dire « je t'aime ».
C'est dans les actes et dans la défense en fait, de l'autre, quand il est menacé, qu'on traduit souvent, qu'on raconte cet amour.
Le petit truc en plus aussi de la série, c'est d'avoir les grains de folie chez Marianne James, chez vous Constance, la rigueur de la juge qui essaye quand même chez Claire Borotra de rester la plus rectiligne possible dans son comportement.
Elle est épuisée la pauvre en fait. Moi je trouve que votre personnage Claire Borotra est vraiment très méritant.
C'est vrai que c'est fatigant, elles sont fatigantes quand même dans l'histoire, évidemment. Oui, oui, et puis de rester cohérente avec ses principes, alors qu'elles sont toutes les deux dans des comportements qui sont toujours border, où l'objectif, les moyens comptent peu quand on atteint son objectif. Et pour Justine, c'est vrai que c'est plus important, je crois, d'être cohérente.
Qu'est-ce que vous avez apporté chacune à votre personnage dans son jeu? Comment on crée un personnage? Surtout, vous êtes héroïne aussi d'autres séries, peut-être même carrément d'autres chaînes, oui, carrément. Est-ce qu'il faut rentrer dans un costume, qu'il soit aussi bien mental que simplement le brassard et le gun que l'on a en plus? Vous, par exemple, Vanessa, enfin Constance, qu'avez-vous apporté à Vanessa qu'est-ce que Vanessa vous a apporté?
Moi, souvent, quand je crée un personnage, j'aime pas trop ce terme, parce qu'on crée pas un personnage, il est quand même déjà écrit.
On lui apporte, on l'alimente, on lui apporte des éléments, non?
Une incarnation, et puis tout d'un...
Un rythme, le ton d'une voix, le je sais pas, comment on se tient physiquement, comment on marche.
Mais moi, c'est beaucoup en opposition à l'autre que je crée un personnage. Okay. C'est-à-dire en découvrant Claire, en découvrant son personnage, j'ai un peu créé le mien, et je me suis un peu raconté que Vanessa, en fait, c'était la liberté, et que c'était l'espèce d'adulte mi-adulte, mi-adolescente, mon royaume pour une vanne. C'est-à-dire, pour une vanne, elle est prête à tout
pour la vanne, ouais, c'est ça. Y compris vanne. Avec ses supérieurs, ouais, c'est ça.
Elle a toujours l'œil qui fait.
Le ton, d'accord.
Ça fait rire que moi, mais je vais quand même la faire, cette vanne. Et elle y va, et je trouve ça génial, la liberté de.
Même si elle est border avec la loi.
Mais bien sûr, parce que ça aussi, c'est une vanne. C'est rigolo de jouer avec la loi.
Elle est complètement inconséquente, en fait.
Complètement inconséquente. Mais elle arrive quand même à mener sa petite barque. Et elle est finalement quand même très concrète. Quand elle veut quelque chose, elle l'obtient.
Ouais, enfin, c'est tout l'enjeu de la série. C'est-à-dire qu'il suffit pas d'identifier le coupable. Il faut aussi se donner les moyens de le faire condamner. Ouais. Et c'est la tension entre les deux personnages qui réside dans cette problématique, en fait.
Ouais, c'est ce qui fonctionne pour nous quand on le regarde aussi. Parce qu'il y a toujours cette notion de sur quelle piste on va. On joue à l'enquête de notre côté, ouais, tout en étant spectateur. Mais on aime cette électricité. Enfin, je trouve, c'est ce qui fonctionne. Les vannes aussi. Y compris la rigueur le commissaire, enfin, qui a toujours son bureau. Il n'y a pas une feuille qui traîne sur son bureau, on se demande à quel moment il bosse, lui. Hein.
Ouais, il est juste super, cet acteur.
Il est sur écoute. il surveille. Il est très, très droit dans ses
pattes. Très, 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 trop maniaque. Beaucoup trop maniaque.
Alors vous, votre personnage, comment vous l'avez alimenté, Claire?
Alors moi, je continue à préciser que vraiment je lui ressemble pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis psychorigide et complètement coincée. Donc je continue à
mais
le dire.
Mais le fait de le préciser, c'est très inquiétant.
Ouais, c'est vrai, c'est bizarre. Merci beaucoup pour cette petite remarque.
Plaisir.
Qui me fait vraiment du bien. Je suis tombée sur l'épisode mardi soir et mon fils était à côté et on a zappé. Et en fait, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, oh, je te reconnais pas du tout. Alors ça peut être dans les deux sens.
Ouais, ça peut être compliqué.
Mais il m'a dit, en fait, je reconnais pas tes expressions. Donc oui, j'ai construit un personnage hyper psychorigide et c'est ça qui est marrant, en fait. C'est de le tenir jusqu'au bout et de le mettre dans des situations complètement qui le font craquer, qui la font péter les plombs. Mais donc ça, j'ai plein de sources d'inspiration en termes de psychorigidité. Et de...
Ah bon, vous êtes environné?
Il y en a.
En tout cas, ça... Il y a un véritable rythme aussi dans cette série, je ne sais pas comment le qualifier, mais pour en voir beaucoup de séries policières sur les différentes chaînes et voire plateformes, c'est pas facile de tirer son épingle du jeu dans le champ de vision qui est offert aux spectateurs. C'est-à-dire comment se distinguer des autres pour rester quand même dans l'enquête, la police, il y a un meurtre.
Les enquêtes sont à niveau humain, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas toujours des meurtres, c'est des problèmes de droit, c'est des points de droit, donc ça différencie quand même de toutes les enquêtes avec des morts toutes les semaines. Ensuite, il y a la dimension familiale, qui garde quand même quelque chose d'un peu particulier et qu'on retrouve pas forcément partout.
Et puis les deux côtés, c'est police et justice. Parce
exactement.
Que souvent, c'est soit police, vraiment que police, il y a un tout petit peu de justice. Là, vraiment, on a les deux via le lien familial, en fait.
Voilà, et la tendresse, l'humour, enfin, je pense que c'est toutes ces petites
choses. Que le fil rouge, en fait, il est partout.
Kidnapping d'une héroïne aussi, ça. À quel moment on se dit le héros ou l'héroïne d'une série peut être kidnappé? Non, mais c'est vrai.
Elle faisait trop de bruit. Elle disait, allez, ça dégage.
C'est ça ou le coma. C'est souvent une punition. Hein. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien.
C'est quelqu'un qui s'est mal conduit, qui a été en retard souvent sur le tournage.
Exactement, c'est souvent une punition.
Non, peut-être qu'elle piquait toute la table régie. Je sais pas, ils ont voulu me. M'évincer un peu.
Et l'arrivée comme ça de l'amour de sa vie qui revient chambouler un peu le jeu de quilles dans lequel on est aussi.
C'est un peu l'amour toxique.
Il y a des rebondissements. C'est ça aussi, cette force. Face à face, on en parle. C'est mardi sur France 3 à 21h10 pour ce qui est des épisodes suivants et l'intégralité sur France.tv. On en parle jusqu'à 12h30. Mais d'abord, voici Lisa Delmoitier.
Ah oui!
Vous avez pas fait une série policière sur deux sœurs ou demi-sœurs, vous?
Non, le nègre. Énorme cafouillage. J'ai tapé face à face sur Google, comme une chroniqueuse très professionnelle, et je suis tombée sur une émission d'RMC avec quatre journalistes face à Jean-François Copé.
Bah non.
J'ai fait toute ma chronique là-dessus. Donc suivez-moi, hein, parce que déjà, il y a une heure de ma vie que je vais jamais récupérer. Je me suis dit, putain, quel virage pour la quatrième saison. Mais bien sûr, c'était une boulette. Diams, on t'oublie pas. Le face à face dont on parle ce matin est bien plus divertissant, puisque c'est celui qui oppose vos deux personnages, Constance et Claire. Un juge donc et une policière, enfin une juge et une policière forcées de travailler ensemble alors qu'elles n'ont rien en commun. Ça va, hein, on le fait tous, tous les jours ici. Ça peut être professionnel. Les gens pensent qu'on s'entend bien, je veux dire. Ouais. Bon, cela dit, on en a la quatrième saison, donc vos deux personnages se sont rapprochés et ont appris à travailler ensemble. C'est comme Daniel et moi. Hein, première saison, on se bouffait le nez. 4 ans plus tard, on se bouffe le cul. Enfin, tu vois, il y a quand même...
Ah bon,
je l'attendais celle-là.
Parce que le travail rapproche. Donc, je pense que ça fait 12 ans que Nagui et Daniel travaillent ensemble.
T'imagines ce qu'on se bouffe,
oh là là là.
Je n'ose imaginer la haine. Et dans cette dernière saison, continue, hein, le dernier épisode voit nos deux demi-sœurs enquêter sur le meurtre d'un cheval. Nagui.
Oui. C'est pas moi.
Vous étiez où le 24 décembre à 23h42?
C'est pas moi.
Fêtiez Noël? Ben tiens, tout à coup on fait des efforts pour s'intégrer. Quand ça vous arrange, hein. Noël, il y avait des témoins? Un âne, un bœuf et Jésus. Non, franchement, c'est vraiment horrible de toucher un cheval. Je dis pas que ça m'a jamais tenté de planter quelqu'un, mais j'ai une règle. Je ne tue pas quelqu'un qui a des sabots. Donc ni poney, ni hollandaise. Enfin, moi, je suis trop jalouse des chevaux. Leur queue est plus belle que ma tête. Je veux dire, les
oui,
cheveux.
Oui, la queue de cheval, oui. Ouais. C'est ça.
Okay. Bon, désolé. Je pars en tangent sur les quadrupèdes, mais c'est parce que si je parle trop des épisodes, je vais les spoiler. Et bon, il n'y a rien à faire. T'enlèves l'énigme qui est le meurtrier à une série policière, le truc s'effondre très vite. Et moi, je veux gâcher le fun de personne. Hein. Mm. Je ne spoil pas les séries, j'enlève pas le fromage de la raclette et je ne te demanderai pas si tu es marié. Voilà. Hein. des petits rires comme ça que tu récoltes. Hein, mais ce qui est bien avec la série face à face, c'est que si on ne veut pas parler de la fin, on peut s'attarder sur les débuts des épisodes qui, petit rituel, on l'a dit, s'ouvre avec un texte de loi sur lequel l'intrigue peut se baser. C'est bien les petits rituels, c'est comme chez nous, avec la chanson du début d'Old Love sur laquelle les invités peuvent s'affliger. Voilà. Hein, et s'ils ne sont pas encore à terre, on enchaîne avec ma chronique dans laquelle je leur dis que dans leur œuvre, tout est à refaire. C'est comme ça qu'on déboîte le showbiz dans cette émission. Old Love, Uppercut, Lisa, Jugulaire. Et voilà. Vous êtes à terre. Mais c'est super de commencer une série judiciaire sur du réel, ça nous permet d'en apprendre plus sur les lois. C'est essentiel en tant que citoyen et pourtant, on évolue tous dans la société, mais quasi personne n'a ouvert le code pénal. Hein. C'est fou, c'est comme lancer une partie de Monopoly, à chaque tour, t'es là, mais qu'est-ce que je fais encore en prison? Lis les règles, en fait. Un autre truc que j'ai appris dans votre série, on le disait, c'est qu'en Allemagne, même en situation de violence conjugale avérée, la loi prévoit que la garde aille systématiquement aux parents de nationalité allemande, même si c'est le père qui est violent. Je trouve ça absolument horrible. Mm. Enfin, voilà. Après, j'ai pas un meilleur de choses à dire, mais à un moment, les Allemands, si vous voulez qu'on passe à autre chose, faites un effort. Quoi. Le schnitzel, c'est bon, mais ça suffira pas. Donc voilà, grâce à Face à Face, on est déjà un peu moins con. On sait qu'on peut pas tuer de cheval, mais qu'on peut taper son mouflet si on s'appelle Franz. Et sur ce, je vous laisse. On a notre team building à continuer avec Daniel.
Merci. Il y a des thèmes qui sont abordés. Alors oui, à ce côté, il y a la loi, mais il y a aussi des valeurs. Je trouve que la série porte, c'est-à-dire la parole de l'enfant, les violences faites aux femmes, le traitement des animaux, ou le respect en tout cas de la souffrance animale, les gardes partagées, enfin tout ça. Chaque fois, il y a quelque chose qui, on va dire quoi, qui traduit un tout petit peu notre société, ce qui se passe, comment on vit ensemble. C'est pas uniquement des règlements de compte.
Il y a une dimension policier, sociétale. Hein, y a une vraie volonté.
Depuis le début, on vous le dit, vous l'avez senti, ou c'est au bout de la quatrième saison que ça évolue vers ce sens?
Depuis le début, il y a cette envie de la production, du diffuseur, des auteurs, de traiter des sujets sociétaux. Et c'est ce qui, je trouve, en tout cas, moi, ce qui me plaît dans la série. C'est ce qui permet d'avoir des vraies scènes avec des vrais enjeux, avec des choses qui sont pas forcément manichéennes, c'est qui permet de réfléchir, au vivre ensemble.
C'est quoi? C'est de défendre aussi des valeurs. Est-ce que vous êtes dans l'écriture, vous êtes au courant même des thèmes qui seront abordés au fur et à mesure que ça approche, Constance?
Pas pendant l'écriture. On les découvre en fait les arènes. Mais parce que toi, t'appelles la production toutes les 2 minutes 30. Moi, je découvre le cadeau, je déballe, je suis contente.
Non, c'est eux qui choisissent, en effet.
Oui, les arènes, elles sont cherchées, trouvées et validées bien avant, en fait, même le fil rouge. Enfin, c'est souvent comme ça qu'ils écrivent les enquêtes bouclées, enfin, les séries en enquête bouclée.
Oui, parce que là, les deux qui vont arriver, on parle de la séparation entre un père allemand, une mère française et la garde partagée.
Enfants, en fait.
Et l'épisode suivant, c'est sur la violence faite aux animaux, avec l'équithérapie aussi qui vient dans ce thème, qui fait du cheval. Qui fait du cheval, ouais.
Alors moi, je paye un cheval, et toi, tu fais du cheval.
Ouais, moi, j'en ai deux. J'ai mes deux amours de ma vie, voilà. Donc, je sais pas si c'est un cadeau de la production qui a dit, tiens, on va la foutre dans une écurie, elle sera moins casse-couille. Mais il y a un épisode sur le cheval dans lequel j'ai pas beaucoup tourné, malheureusement. Mais moi, la cause animale...
C'est ça le cadeau de la production, c'est de faire un épisode dans un lieu que vous aimez en disant « tu ne viendras pas
». Bah,
c'est pour ça que moi, il y en avait un sur la séparation, du coup.
Trop
chacun,
sympa.
Chacun son domaine.
Ouais, vraiment merci à la prod.
Non mais c'est drôle parce que souvent le personnage c'est le personnage. Constance Gay, moi c'est Constance Gay. Il n'y a pas de mélange. En revanche, je me rappelle que la prod m'avait dit non mais Vanessa Tencelin, elle en a rien à foutre du cheval et tout. J'ai fait alors ça c'est non. Ça c'est non. Mais elle défendra le cheval. Ça c'est mort. La cause animale c'était non, c'est pas possible.
Obligatoirement défendu, évoqué le.
La fin dans le monde non, mais elle est.
Mais ça. Les climats et les bourrins, ça c'est
important.
Il y a une part de psychologie aussi.
Oui, avec le personnage incarné par Clément Aubert qui vient aussi. J'ai adoré ce personnage qui vient comme ça amener déjà beaucoup de douceur aussi, d'empathie et qui va mener aussi les investigations. Un peu différemment.
Ouais, exactement. Il a cette dimension. Il est psychologue. Oui. Il a une douceur. Il a une empathie. Il a une compréhension. Enfin, on dirait presque pas un homme.
Oh, oh, oh,
oh, oh, oh,
oh, oh, c'est un personnage de fiction. Hein,
c'est la force tranquille, Martin.
Mais alors, non, mais cette procureure, alors, et ce problème avec la proc.
Ah, comment elle s'appelle alors?
Ah, pardon, j'allais enlever mon pull, mais du coup, je n'enlève pas mon pull.
Ouais.
Moi, je pense que moi, Justine va finir avec Nadia Weber.
J'adorerais cette histoire.
Je trouve qu'il y a une tension entre elles.
Sexuelle.
Bah, okay. Je me demande parce que quand il y a une comme ça, une haine viscérale, inexpliquée. Je voilà. Bon, ça, c'est une option que je lance à la production si jamais.
C'est un appel, ok. Ah ouais. Moi, je m'attendais pas à ça.
Ouais, moi non plus.
Mais ah non, moi non plus.
C'est quand même une histoire avec la famille,
avec la voix en régie. C'est pas moi.
Non, mais
la lignée, il y a un truc avec le père.
Oui, oui.
Il y a une rivalité, il y a quelque chose d'installé. Moi, je pense qu'elle veut votre peau.
Je m'attendais à un secret de famille.
Oui, oui. Il est possible qu'il soit passé quelque chose avec le père.
Oui.
Qui s'est tapé la terre entière, visiblement. Donc, pourquoi pas?
Pourquoi pas elle?
Avec des enfants.
Mais c'est une analyse plus psychologique de ça.
Ah oui.
Moi, j'ai l'impression que Justine Rameau, elle voit dans Nadia Weber la surrigidité que peut être Nadia Weber. Elle voit un peu ce qu'elle est et donc ça l'agace. C'est toujours quand on a le défaut de l'autre, ça nous agace encore plus de le voir chez l'autre.
Mais là, c'est comme Nadia Weber qui veut la peau de Justine depuis le début,
et
Vanessa, en fait. Des deux, bon après, c'est toujours des personnages.
La saison 5,
c'est les filles, il y a un truc avec le père.
Ouais, c'est sûr, il s'est passé quelque chose. On va enquêter. Dernière enquête, tiens, voilà. Pourquoi
c'est peut-être notre sœur.
Evelyne Elgarbi Gray qui joue le rôle de cette procureure extrêmement sévère et qui fait peur, d'ailleurs, parce que dès qu'on la voit arriver dans les couloirs du palais de justice ou sur un lieu d'enquête, on se dit il y a un dos. Ouais, c'est ça.
Il y a un dos. Ouais.
Non, et puis on a l'impression qu'elle veut la peau des deux. Elle veut cramer aussi bien la commissaire que la juge. On ne comprend pas bien pourquoi, mais...
Peut-être qu'elle est jalouse aussi de cette sororité entre elles. Je me dis qu'elle, c'est un personnage très seul, qui visiblement a traversé pas mal d'épreuves, qui élève son fils, enfin elle a un fils bipolaire dont on a découvert l'existence lors d'un épisode. Et donc peut-être que, en fait, de voir cette complicité, cet amour fraternel entre les deux...
C'est aussi peut-être parce que vous respectez pas toujours la loi, mais je dis ça, je dis rien.
Peut-être, après, bon...
Oui, c'est possible, il a merci, mais... C'est vrai, on faisait de la psychologie de bazar.
Et puis dans les thèmes abordés, je pense aussi à cet épisode, mais qui a déjà été diffusé sur les réseaux sociaux, sur un faux enlèvement d'influenceurs, histoire de créer le buzz aussi, le bad buzz, qui est très actuel. Et pourtant, on imagine que dans la série, il y a l'écriture, entre le temps de l'écriture, le temps du tournage, du montage et de la diffusion, a dû s'écouler quand même pas mal d'eau sous les ponts. Et pourtant, c'est très... Je dis pas que c'est tendance, mais c'est totalement crédible sur le fait que ça puisse arriver, malheureusement, j'ai envie de dire, demain. Donc la modernité de la série est dans les
sujets. On rend hommage aux producteurs qui ont choisi ces arènes.
Comme par hasard dans les studios de Radio France en ce moment. On en parle jusqu'à midi et demi, face à face, ça passe le mardi sur France 3. Voici Mélodie Fontaine.
Ah oui, bonjour. Salut les loulous, vous allez?
Et toi?
C'est déjà ça. Oui, j'avais lu mon journal de vacances après l'été, vous vous souvenez?
Oui.
Si vous vous en souvenez pas, je vous en veux pas moi non plus. Mais ça avait exorcisé quelques démons, alors je me suis dit que j'allais faire pareil pour les vacances de Noël. Et puis je me suis dit finalement, parlons d'autre chose. Et puis en fait après, je me suis dit, bah pourquoi pas? Noël, ça remonte quand même à loin, loin, loin. Et puis en vrai, je me suis dit non. quand même pas Noël. Et puis voilà, j'ai changé d'avis. Après tout, on n'est pas loin des vacances de février. C'est toujours les vacances avec vous, de toute façon.
Oui.
Hein? Et puis une chose en entraînant une autre, je me suis dit encore une fois non. Et puis après, oui. Bon, vous êtes OK? Allez, ouais, allez. Je lis mon petit journal. Pas le choix, j'ai rien d'autre. C'est soit ça, soit je chante, je suis fan et personne n'a envie de revivre ça. Alors, on est le 23 décembre. C'est le matin. Le train quitte la gare dans une ambiance à couper au couteau. Pas un couteau à viande, non. Un couteau à beurre rouillé suffit, tant les gens sont stressés. Ils semblent aller à l'abattoir. Et pour cause, ils rejoignent leur famille. Les portes du train se referment comme se ferment les paupières après du GHB. Direction le Nord. Et le contrôleur d'essayer de mettre un peu d'ambiance. Toute l'équipe SNCF se joise à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes. Quand il le dit, on dirait qu'il pleure. Après cette année 2025, les fêtes de famille, c'est le coup de graisse. C'est donner un dernier coup de botte souillé de pipi dans la bouillie du cadavre encore fumant de notre santé mentale. Il restait déjà pas grand-chose, mais là, le moral ressemble à une vieille crotte. Du genre qu'on fait après un mélange d'huîtres, de maillot et de mon chéri. Marron clair, mais pas vraiment liquide, pas vraiment solide, avec sans doute un peu de liqueur à l'intérieur. J'ai pas regardé. Je plaisante, bien sûr que j'ai regardé. On dirait une anémone. L'animal, pas l'actrice. Bref, un mon chéri au citron. Heure 3, on arrive mais le voyage secoué. Ma fille lâche une galette sur le quai. On dirait un smiley. Des passants clissent dedans, c'est déjà ça. Heure 8, l'alcool est dangereux pour la santé, oui, mais il a des vertus étonnantes, comme par exemple celle de faire passer le temps. En ces périodes de fête, c'est Noël avant l'heure. Mon beau-père a dégainé l'album de famille, le Dijo et le sujet LFI. C'est un sacré cocktail. Une bombe sale. Elle explose comme il faut, tout le monde va se coucher très tôt, couvert de calva. Heure 9, les mon chéri rencontrent les Ferrero Rocher.
Il était réussi.
Il était top, bien envoyé.
Allez donc. Bravo Emma. Excusez-moi.
Jour 2, c'est le 24 décembre. On prépare à manger. On est 12 et il y a assez de bouffe pour filer une indigestion à l'intégralité de la population de Nancy. Il est 19h, on se met à table, à moins que ce soit la table qui se mette sur nous. On va au lit. Ah. Coucou les huîtres. Jour 3.
C'est pas... C'est gênant.
On ouvre les cadeaux. C'est un Secret Santa. On m'offre la troisième, la maison vide, le Goncourt. J'y vois un message caché. Je suis mauvaise langue. La magie de Noël, c'est sûr, elle existe. C'est juste que c'est de la magie noire. Au dîner, Christophe me demande pourquoi je ne mange plus de viande. C'est la 8e fois aujourd'hui. Je ferai bien exception en mangeant Christophe. Pour que Christophe ferme sa grande mouille. Hélas, Christophe a l'air dégueulasse. Jour 4, c'est Noël après l'heure. On m'appelle pour un casting. Dommage, il cherchait Élodie Pou. À 9 lettres près, j'avais un travail. Jour 5, j'ai la goutte au nez alors que d'habitude je l'ai dans le slip. Mais c'est donc ça, il fait froid. J'avais oublié ce que ça faisait. Heureusement qu'on a inventé le réchauffement climatique, c'est moins chiant que de mettre un pull. Jour 6, dans le train du retour, j'essaie de lire mais une meuf scrolle sur son téléphone, le son à fond. Elle prend pour tout le monde. En cette fin d'année, je n'ai plus aucune limite. Jour 7. Ma fille de 6 ans chante en boucle la BO de K-pop Demon Hunters. C'est insupportable pour deux raisons. La première, c'est que c'est insupportable. Et la deuxième, ce sont les paroles de Soda Pop. On dirait que c'est écrit par l'amicale des abbés de zone rurale, Fidjiem Morandini. Je cite, « J'ai envie de t'avaler, toi seul peux me désaltérer. Je te veux coller serré, tu me plais, je suis chaud, viens me retrouver.
Wow. »
Bon.
Ça fait toujours son effet. Hein.
Jour 8, je tente une expo avec ma fille. J'aurais appris une chose, je ne peux pas faire une expo avec ma fille. Renverse-toi, ne t'arrête pas, je veux que ça pop entre toi et moi, mon petit soda pop. Je ne mangerai plus jamais coréen. Ou alors un coréen. Jour 9. Les vacances, pour moi, c'est fini. Et ma fille pose un renard sur la moquette. 2026 s'annonce sublime. On dirait un smiley, mais qui sourit.
Il n'y a plus de paix, là.
Très efficace.
Ah ben c'est une. C'était un moment qui ne manquait pas d'air. Oh.
J'ai cru que ma maman était sur France Culture. Mais pas du tout. Alors Mélodie Fontaine, sachez qu'elle est sur scène. Voilà. Elle est sur scène. Bon, elle est loin sur scène. Hein.
Elle est à Alice, c'est étonnant, le 24 janvier à la chapelle Saint-Ménin, c'est près d'Orléans, le 31 janvier, et à Comines-Barneton, c'est près de la frontière belge, ce sera le 4 février.
Sarah Guibaudot sera notre invitée dans quelques instants, elle est chef du service police-justice de France Inter.
Pas sûr qu'elle ose venir maintenant.
Les rapports et la tension entre police et justice, on va en parler, mais cette série Face à Face, qui passe le mardi à 21h sur France 3, est la série préférée de Leïla Kadour-Boudali. Vous savez pourquoi ?
Non.
Pour ça.
Donne-moi ton cœur.
Oui, ah bah oui.
Donne-moi ton corps. Donne-moi ta soul. Ton rock and roll.
Mais pas mal, hein.
Je veux une femme.
Vous chantez bien.
Like you. Un homme.
Bah, j'ai fait un petit mal à Yann Tell.
Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby.
Et c'est vous qui chantez, Claire Bourotra, Constance Gay.
C'est
vachement bien, ouais.
Ah bah ouais, on s'est amusé à faire ça.
Cette version est réussie.
Ouais. C'était chouette. Bah, il y en a eu beaucoup des versions, y compris dans tous les karaokés et tous les anniversaires de France. Mais ouais, celle-là, on s'est amusé à la faire.
C'est réussi, en tout cas. Ça, c'est le générique, c'est la musique, entre guillemets, de Face à Face. Et on en parle de la musique aussi dans vos vies. Claire Bourotra, vous aimiez écouter dans les années 90. Non, c'est Constance, pardon.
Oui.
C'est Constance. En fait, vous l'écoutiez surtout parce que ça passait à la maison, c'est ça ?
Parce que
les années 90 sont les années de votre naissance.
Oui, exactement. Mais parce que en fait, la comédie musicale a bercé mon enfance au sens où en fait, c'est la joie, la comédie musicale. Donc toutes les comédies musicales ont bercé mon enfance et j'étais un peu amoureuse de Jane Kelly. Toujours un peu, je crois.
En rêvant de chanter, de danser, de faire aussi une...
Et bien sûr, et encore aujourd'hui...
Musical comedy un jour, ouais.
Ah ouais. En fait, quand je vois des gens chanter et danser ensemble, je pleure. C'est assez immédiat. Je trouve que c'est la joie, c'est la création ensemble, c'est... Je sais pas, je suis peut-être un peu ringarde, mais je trouve ça
génial. Non, mais nous aussi, quand on voit Old Love chanter et danser, on pleure.
Bah, voilà, c'est ça. Il est tout en un.
Je provoque ça.
Tout en un. C'est ça. Merci.
Je vais quitter ce monde.
J'en ai trop entendu. C'est son véritable nom, il s'appelle Tout en un.
Il s'appelle Tout en un. Tout à fait.
On l'appelle le package.
Comme Passepartout. Ouais.
Et donc...
On est en 92.
On est en 92. Et c'est l'équitation, justement.
Et voilà. Et bah oui, évidemment, j'aurais pu mettre Petit Poney, mais non, j'ai mis Jane Kelly.
Ouais, une vraie passion. Je crois que c'est un camp de vacances, une colonie de vacances, découverte du poney.
Vous avez bossé, hein?
Non, mais...
Voilà. On a des équipes, mais
au centre-épique du ciné.
Alors, les assistants.
Vous l'avez dit dans Grand Prix Info en 2023. Voilà, juste, voilà. Oui. C'est la référence. Okay. Découverte du poney. Mais au-delà de ça, de l'amour de l'animal, vous parlez d'une discipline, vous parlez d'une rigueur, pour ceux qui n'ont jamais pratiqué, expliquez-nous.
Bah, disons que c'est une rigueur sportive, mais aussi extrêmement mentale et extrêmement personnelle. Moi, c'est mon développement personnel. J'ai rien compris aux autres trucs. Mais en revanche, quand je me retrouve face à mon cheval, je vois mes défauts et ce que je devrais être pour qu'il m'écoute. Mmh. Je trouve que c'est un peu le sens de la vie.
Enfin, vous ressentez vraiment cette connexion que sans que vous parliez, vous vous comprenez?
Ah bah, on se parle, mais on se parle pas avec la parole.
Ok.
On n'a pas la enfin lui n'a pas la parole.
Le cheval ressent ce que vous ressentez inversement.
Ah non, c'est bien aussi quand ça parle pas. Parfois je me sens comme ça. J'arrive devant mon cheval et je fais ah non en fait je suis dans cet état-là, j'avais pas remarqué. Parce qu'il me dit calme-toi.
Il en pense
là.
Quoi lui?
Lui il en pense toujours la vérité.
Ouais.
C'est tout. Bien, ça. Ouais.
C'est une psychothérapie, en fait, c'est une psychanalyse, c'est...
C'est une sorte de méditation, c'est une sorte de tout ce qu'on veut, mais moi, le rapport à l'animal me fascine pour ça, quoi. C'est autre chose, c'est un autre dialogue, c'est un autre...
Et quand on est aussi autant convaincu qu'il n'y a que l'animal qui nous comprend aussi bien, comment est-ce qu'on fait avec les hommes, les humains? Est-ce qu'on fait un effort
On court vite. on court vite et on va retrouver ses bourrins. Non, moi, ça m'apprend beaucoup sur l'humain, en fait, les animaux. Vraiment.
Dans les années 90, Claire Bourotra, vous écoutiez du Brassens, mais pas chanté par Brassens.
Oh, c'est beau ça.
Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin.
Vous l'avez vu en concert, c'est ça?
Ouais, c'était magnifique. Et j'ai un souvenir vraiment très ému de cette période. Ma maman traversait des moments très difficiles et on a été avec mon frère, ma sœur et elle le voir en concert. Et c'était, je pense que la culture, en fait, c'est aussi ça quand même. C'est des moments qu'on partage, des émotions, des choses qui nous lient et dont on se souvient toute notre vie. Et je peux pas réécouter Le Forestier chantant Brassens sans cette période qu'on a surmontée tous ensemble. Et voilà, et c'était très très beau, hein, cette reprise.
Et on vous retrouve dans ces années-là à la télévision déjà. Déjà parce que vous avez 20 ans, vous avez 20 ans en fait. Vous êtes hyper jeune. Non, je le dis dans ce sens-là chronologique. Dans Honora et l'enfant.
Oh voilà, là oui.
Prodigue.
Et Prodigue. Ouais, c'est ça. Avec Michel Galabru, c'était la première. Mon premier film, mon premier téléfilm.
Vous vous souvenez quand on vous a appelé pour
Ah, je me souviens du coup de téléphone de Jean Chapeau. J'étais chez mon beau-frère, je revois le moment où il m'a appelé et j'ai hurlé de joie, j'ai dansé. Ça fait partie des grandes joies de se dire on a été choisi.
Oui.
Ah ouais. Et on a la été première regardé. Fois qu'on est choisi.
Parce qu'il y a eu beaucoup de noms avant.
Oui, et après aussi. Hein.
Non, mais parce que c'est un métier, où il faut
c'est un métier
apprendre
où il y a
le refus.
C'est ce qui fait la différence.
On oublie souvent ça.
Ouais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de noms. Et quel que soit le niveau. Parce que vous pouvez discuter avec une star internationale, elle vous racontera toutes les frustrations qu'elle a. Voilà. Et en fait, soit on s'arrête au nom, soit on capitalise sur les oui en se disant qu'on a beaucoup de chance, quoi qu'on ait fait. Mais
qu'est-ce qui fait qu'on continue malgré les noms?
Parce qu'il y a une nécessité intérieure. Je pense que c'est trop difficile ce métier si on n'a pas la nécessité intérieure de faire
jouer.
Ça, ouais, de jouer. Et puis de mettre ses émotions au service d'une histoire, d'un partage universel justement. Il faut qu'elle serve à quelque chose.
Donc ça veut dire que ceux qui lâchent le bout en disant j'ai eu trop de refus, je laisse tomber, je passe à autre chose. Pour vous, ils n'ont pas été suffisamment forts d'un point de vue caractère ou
il y a aussi votre histoire. Ouais. Il y a aussi votre histoire qui vous rend plus ou moins fort. C'est difficile de faire un métier dont.
Non, mais je repense à Pierre Arditi qui a essuyé des tonnes et des tonnes de noms, qui a raconté dans une interview avec Philippe Labro, je me souviens encore de cette situation où il expliquait qu'il pensait presque mettre fin à ses jours, c'est-à-dire que il y avait un truc de dépression devant le refus de tout le métier, et ce jour-là, il a un coup de téléphone en disant vous êtes pris, et sa vie change totalement. C'est ça qui est dingue, quoi.
Ouais. On
se rend pas compte de ces déchirements.
Et puis votre valeur, c'est un métier dans lequel votre valeur ne dépend que du regard des autres. C'est les autres qui décident de ce que vous valez, et en plus vous remettez votre maillot en jeu à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque époque de votre vie, votre valeur est remise en question, là où quelquefois une fois que vous avez quand même un certain nombre d'expériences, vous valez plus. Là au contraire, c'est plutôt une pente.
Ce qui est pas toujours le cas, pardon Claire, c'est-à-dire que quand on a une certaine renommée, on sait que on peut être aussi choisi parce qu'on est un nom. Je dis pas que ça dure toute une vie, mais je dis que s'il y a eu quelques succès retentissants, on peut se dire aussi qu'on est un peu installé.
Mais pas pour toujours.
Non, pas pour toujours.
Mais... Oui, bien sûr. Oui. Mais chacun a son niveau. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les stars, il y a plein d'acteurs qui travaillent, que vous voyez tous les jours sur vos écrans, au théâtre.
C'est ça.
Ouais. Mais ça veut dire aussi que quand on tombe sur une série, là vous en êtes à la 4e saison de Face à Face, on protège aussi la série.
Oui.
En disant, on y tient, on est en train de construire quelque chose, il faut que ça dure.
Complètement. Après, je vais laisser le. Mais il y a deux paramètres. C'est d'abord, c'est incroyable le lien qu'on a avec les spectateurs, parce que c'est un rendez-vous.
Ouais,
et ça, c'était quelque chose que je connaissais pas, que vous connaissez, mais les gens attendent la suite. Enfin, moi, je l'ai vécu en tant que spectatrice, et d'un seul coup de rencontrer des gens qui attendent la suite, qui ont l'impression que
ces
sœurs sont un peu leurs sœurs, que cette famille est un peu leur famille. Et puis, il y a des liens avec une équipe technique qu'on retrouve tous les ans, qui se marient, qui divorcent, qui ont des enfants, qui
perdent
leur papa, leur maman. Ouais. Et on part. Partage tout ça ensemble, et c'est vrai que et puis c'est vrai que cette sécurité, même si à chaque fois on sait jamais si ça va continuer, de se dire pour une fois je sais ce que je vais faire l'année prochaine, ou je sais que j'ai quelque chose potentiellement, j'ai du travail à nouveau, ça n'a pas de prix. Mais pardon, vas-y, à toi.
Non mais je
merci Constance.
Allez, ciao. Non, je suis d'accord avec ma sœur.
Ça tombe bien, vous écoutiez Dance Little Sister en 2016. Énorme tube cette chanson. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, des soirées de fête ou la danse justement?
La fête, la danse, la grande musicalité. Je trouve que c'est un titre complet, quoi. C'est, on a, enfin, moi, je trouve ce, musicalement, je le trouve tellement top. Exceptionnel. On a, ce morceau.
C'est comme du James Brown sans en être.
Il y a un côté un peu kitsch, il y a du jazz, du funk, il y a une voix exceptionnelle, il y a presque un peu d'impro, enfin, je sais pas, moi, je me le mets le matin, je peux être à deux doigts de me jeter par la fenêtre.
Ah non.
Je retourne sur mon balcon et je vais me faire un petit café, quoi, je sais pas, il met en joie.
C'est parfait. Du tout en un, un peu, quoi.
Ouais, c'est du tout, c'est un peu, tout en fait, ce morceau, c'est Hold Alaf.
Oui, oui. et un rôle important, Leïla, dans la vie de Constance Gay.
Oui, premier rôle, en fait, à votre sortie du cours Florent pour la série Unité 42. Premier rôle conséquent en fait à porter.
Bah oui, en fait je sors de la classe libre et là c'est un peu le vide, hein. On parlait de notre métier, c'est-à-dire que là t'es dans le grand bain et tu dis je fais quoi demain. Et en fait il y avait un prix à Florent qui s'appelait le prix Olga où on jouait au Bouffe du Nord, et pendant ce prix tout le monde se regarde en se disant c'est peut-être les derniers moments où on joue, et pendant ce prix j'ai appris que j'étais prise sur Unité 42 en rôle principal dans une série belge, enfin. Donc la joie de se dire ça continue, je vais pouvoir continuer à jouer et gagner un peu d'argent avec mon métier, enfin. Ça a été assez exceptionnel, quoi.
Dans cette même période, Claire Vorotra.
Se met main sur tes hanches, ne fais pas ses yeux furibonds.
Salvatore Adamo, mais surtout Claire Vorotra, pas uniquement actrice, mais
scénariste.
Scénariste,
l'écriture aussi,
productrice.
Là, je n'étais pas productrice, mais j'avais produit avant d'autres scénars que j'avais écrits. Oui, là, j'ai réécrit ces deux premiers épisodes des Chamois. Et si j'écoutais Adamo, c'est aussi parce que dans ces épisodes, il y avait des personnages justement qui disaient mais il est mort, Adamo. Mais il est mort, Adamo. Non, et on faisait arriver Adamo. Que j'ai rencontré.
En guest. Ah ouais,
exactement. En guest. Et qui venait à un moment dire non, je suis pas mort. Donc,
c'est super intelligent d'avoir cette auto-dérision.
Ouais, il est génial. Il est d'une gentillesse et c'était vraiment super.
Il est mort quand, Adamo?
Oh, on l'a reçu il y a pas longtemps,
mais
en plus.
Mais non.
Mais évidemment,
ça va pas.
Sarah Guibaudot nous a rejoint. Bonjour. Sarah, chef du service police justice de France Inter. Ce sont vraiment deux mondes qui ont du mal à cohabiter, la police et la justice.
Oh bah non, d'ailleurs dans la série il y a une vraie complicité, c'est ça qu'on voit. En fait votre question, elle nous ramène à certains slogans de syndicats de police, vous savez ceux qui manifestaient devant l'Assemblée nationale il y a quelques années en disant le problème de la police c'est la justice. Et ça renvoie plutôt au ressenti de certains policiers au commissariat qui ont arrêté 3 cambrioleurs et puis ils sont passés en comparution immédiate, ils ont été relâchés. Bon, déjà, ça nous ramène à des reproches sur la justice laxiste qui sont repris par le monde politique, qui sont faux. C'est-à-dire que globalement, il y a 500 000 condamnations pénales par an, ça change pas. Les peines, elles sont de plus en plus lourdes. Et en fait,
la politique qui reproche à la justice d'être laxiste, sauf quand la justice s'en prend aux politiques, où là, elle reproche d'être trop sévère.
Bon, voilà. Mais je dirais surtout que les policiers qui travaillent avec les juges d'instruction, qui sont vraiment des enquêteurs et qui travaillent sur les affaires les plus graves, eux, ils connaissent tout ça. Ils savent que parfois, ils se sont démenés, mais ils n'ont pas réussi à réunir toutes les preuves, ou le mec, il avait pas de casier judiciaire, ou le juge leur dit, écoutez, moi, la maison d'arrêt, elle explose, les détenus sont à 3 ou 4 par cellule sur des matelas par terre, donc j'envoie en prison que vraiment ceux qui ont commis les faits les plus graves, les multirécidivistes. Ces enquêteurs-là, ils le comprennent. Et la complicité qu'on voit dans la série, elle reflète aussi une réalité.
Elle existe, c'est ça.
Ah,
c'est
mais oui.
Ils se parlent, ils essayent d'éviter mutuellement d'ailleurs les vices de forme aussi, parce que ça fait partie des sujets abordés sur la durée d'une garde à vue, sur la procédure, sur la manière dont le rapport a été fait. J'imagine que tout ça se fait ensemble, vraiment.
Bah c'est le travail des magistrats. Ouais. D'ailleurs, ce sont les magistrats qui dirigent. En fait, il y a un rapport hiérarchique quand même. Hein. C'est le juge d'instruction qui dit quels sont les actes d'enquête à faire et qui pose le cadre juridique.
Qui est clairement supérieur aux policiers, aux enquêteurs.
Il a l'autorité. Okay. Voilà. Okay. Mais par contre, ce qui est marrant, ce qu'on voit dans la série, ce qu'on voit dans d'autres séries, c'est que oui, il y a un juge, il a parfois ses enquêteurs chouchous. Et le juge désigne un service de police. Il n'a pas le droit de désigner nommément tel ou tel enquêteur. Mais bon, il se débrouille un peu. Et à l'inverse, le policier qui aime travailler avec un juge, quand il est sur une enquête de flagrance ou il a commencé à faire une enquête préliminaire avec le parquet, puis il sait qu'un juge d'instruction va être désigné, il passe un coup de fil avant. Ah oui, ça m'intéresse, votre dossier, bon, je suis de permanence tel jour. Donc le policier sait qu'il va présenter son dossier le bon jour pour que ce soit le bon juge qui soit désigné. Donc ça existe, ces relations juge-magistrat, même si, évidemment, deux sœurs ne travaillent pas ensemble dans la vraie vie.
Oui. C'est pas possible?
Non, c'est pas possible. Non, vraiment.
Faut pas dire.
Merci beaucoup. J'imagine que, gamine, vous étiez passionnée. Gamine, je parle de la semaine dernière. Hein. Vous étiez passionnée par les films policiers, les séries policières ou pas? Vous en parlez avec une vraie passion qui
dépasse le
journalisme. Ah, bah oui, j'adore. Non, mais
c'est, bah, et
mais
puis,
on voit bien que c'est. Aussi, là, qui
ça a beaucoup Daniel, joué. On avait dit non. Non, mais par contre, juste sur le côté, vous m'interrogez sur le côté réaliste.
Ouais.
Évidemment qu'il y a une chose qu'on ne voit jamais dans les séries, c'est la temporalité. Enfin, en fait, le juge d'instruction, il a une centaine de dossiers dans son cabinet, dont une cinquantaine de dossiers de viol. L'enquêteur, il en a plusieurs dizaines. Et le plus gros problème aujourd'hui de la police, c'est justement la crise de vocation des enquêteurs, parce que les horaires élastiques, la surcharge de travail, voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas, je trouve, à, et c'est un peu dommage à montrer dans
en
les
cas,
séries.
Il ne faut pas oublier. Merci Sarah Guibaudeau, je rappelle, chef du service police-justice de France Inter. Merci pour la visite. Voici Emma Beaujean.
Oui, bonjour Louis. Bonjour tout le monde. Alors tous les jours dans cette émission, je rends un hommage et aujourd'hui j'ai décidé de rendre hommage aux valises. Ces petits cubes à quatre roues qui permettent de faire passer des vêtements, de la drogue ou beaucoup trop de culottes. C'est vrai, on embarque toujours trop de culottes quand on voyage. C'est quoi le concept? J'ai prévu de me chier dessus tous les jours. Les valises, c'est vraiment le reflet de l'âme. Impossible de juger une valise à son apparence. Au niveau de son apparence, elle ne dégage rien. Il n'y a que son intérieur qui compte. Enfin non, je dis ça, c'est faux en plus, parce que maintenant, j'ai appris qu'on pouvait personnaliser sa valise. Toujours au cœur de l'actu, Emma. Et oui, on peut écrire son prénom dessus. On peut faire imprimer sa grosse tête en énorme dessus. Intéressant. Je vais plutôt prendre les valises Louis Vuitton de Nagui. Une valise personnalisée, c'est... Pardon, je comprends pas. Ça va pas ou quoi? Une valise personnalisée? Oui, c'est une valise Mickey, parce qu'en fait, voilà, c'est ma personnalité. J'aime trop Disney. Et mon homme aussi, tu as 45 ans, Magali. Il m'est arrivé tellement de galères avec des valises. Moi, j'ai une anecdote avec ma mère. Daniel, pas de commentaires, s'il te plaît. C'est juste qu'en fait, on rentrait de notre séjour aux Maldives et on voyageait en EasyJet parce que, ouais, j'ai une enfance difficile, je le rappelle. Et dans une de nos valises, on avait 500 grammes de trop. Et ils voulaient rien savoir. Ils nous ont dit de payer 90 euros en plus. Ma mère, elle a pété un câble, elle était en transe, elle hurlait. Ma sœur, elle a fait une crise de panique. Daniel, il servait à rien. Il disait, calme-toi, ma puce. Bref. Et au final, comme c'était le retour, et ben juste pour les faire chier, on s'est mis à bouffer les 500 grammes de nourriture locale qu'on avait ramenées. Wow. 500 grammes de pâtes de curry rouge avant de faire 12 heures de vol. C'est un souvenir plus marquant qu'un collier de perles, même s'il y en a eu des perles. Politique maintenant. J'ai jamais de chance avec les douaniers. Moi, de toute façon, c'est vrai, le dernier que j'ai vu, il était éjaculateur précoce. Mais ça n'a rien à voir avec cette chronique. Non, j'ai jamais de chance avec les douaniers parce que je me rappelle la fois où j'avais 11 ans, ils n'ont pas voulu me laisser passer avec ma baguette magique de Harry Potter en cabine. Parce que, apparemment, il y avait du métal dedans. Ça a surtout détruit mon enfance. On le dit, on le répète, c'est très important. C'est la baguette qui choisit son sorcier et pas l'inverse. Alors si tu la jettes à la poubelle parce que le mec de Air Italia sait pas dire autre chose que « No getto metallo per favore » et qui comprend pas qu'en fait il faut pas contrarier un serpentard genre avant de monter dans un avion, comment tu veux arriver au bout de ton projet professionnel qui à la base, je le rappelle, n'était pas d'être ici mais bien à Poudlard. Moi des valises, j'en ai trois que j'utilise régulièrement. Toutes c'est des cadeaux de mes parents à chaque fois. Et alors la première, c'est quand j'ai quitté la maison, ils m'ont dit « J'ai pas compris, ils faisaient que pleurer. Je pense qu'ils voulaient juste m'aider à partir dans de bonnes conditions. La deuxième, c'est la première fois que j'ai dû partir en tournée avec un spectacle. Ils ont voulu me montrer qu'ils pensaient à moi à chaque fois que je la prendrais pour partir. S'ils avaient su que je m'en sers principalement pour voler les rouleaux de PQ dans les hôtels. Et la troisième, c'est quand j'ai commencé à vivre de ma passion. Et dans celle-ci, il y avait glissé un petit mot qui disait « Tu prends ton envol, alors on essaye juste de souffler sur tes ailes. » Grâce à eux, à chaque fois que je pars, je suis à la maison. C'est à ça que je rends hommage. Merci.
Merci.
Sur scène, Emma Beaujean à Paris, ce sera tous les mardis à 19h au théâtre Le Pic. Ouais, alors dans Shrek, ce qui est génial.
Avec Lisa Delmoitié, Emma Beaujean, Mélodie Fontaine, Oldolaf, Mélodie Passureau, Daniel Morin.
Beaucoup Mélodie.
Et nos invités, Claire Borotra et Constance.
Bravo.
La bande originale. Leïla Kaddour et Nagui.
Donne-moi ton cœur, donne-moi ton corps, donne-moi ta soul, ton rock and roll. Je veux une femme like you.
Le duo des Frangines.
Un homme like you.
On touche de l'argent à chaque fois que ça passe ou pas?
Ouais. J'espère pour vous.
Cool. Ton cœur, ton corps, baby.
Camaro, oui, en tout cas, c'est sûr.
Ou son auteur.
Oui, c'est ça.
Ouais, c'est Camaro. Ouais.
Il est mort quand, Camaro?
Il est pas.
Ça suffit, tu l'aurais su. Bon.
Ne touche pas à l'idole de Leïla.
C'est ma chance.
Fais des chansons d'auteur maintenant.
Camorodra, lorsque vous avez à expliquer à quelqu'un qui n'a jamais vu face à face ce que représente la série, vous la présentez par le prisme justement de deux sœurs qui ne s'entendent pas mais qui sont obligées de travailler ensemble, ou d'une autre manière?
Non, je trouve que c'est ce qui résume le mieux la série. Deux sœurs qui ne s'entendent pas et qui sont obligées de travailler ensemble. Après, c'est vrai que la dimension dont on parlait, pédagogique, des lois, des points de loi, mais je trouve que c'est la dimension familiale, ouais, qui ressort et qui me plaît. C'est cette tendresse conflictuelle.
C'est ça, qui ne s'entendent pas, mais qui s'aiment, Constance. Ça, il faut le rappeler, parce que c'est peut-être même pour ça qu'elles s'énervent mutuellement. Tellement elles s'aiment.
Moi, quand je présente la série, je présente la série en disant que c'est l'histoire de deux sœurs qui s'aiment. On n'a pas la même vision des choses. Mais bien sûr qu'elles s'aiment.
C'est ce qui résume bien la série.
Non, mais c'est plus facile pour votre personnage de l'aimer en même temps.
Peut-être que elle est moins casse-couille que je ne le suis. Peut-être.
Mais c'est drôle parce que même quand on reçoit les témoignages des personnes, tu comprends, enfin, vous comprenez comment dans la fratrie se situent les personnes, en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours des personnalités assez antagonistes dans les fratries qui se ressemblent pas forcément. Et quand les gens vous parlent de la série, ils choisissent souvent une des deux sœurs à laquelle ils s'identifient. Et vous comprenez très vite ce qui s'est passé dans leur enfance et comment ils étaient.
La série est construite avec toujours un texte de loi, toujours une information qui est donnée pour qu'on comprenne finalement dans quel milieu, dans quelles conditions et avec quelle justement rigueur, quelle loi on va devoir comprendre l'épisode. Viennent ensuite évidemment les rebondissements, les vannes, les tensions, les jeux un peu de séduction, parce que là aussi on ne sait pas trop bien qui cherche à séduire qui, quels sont les rapports installés au sein même du commissariat. Il est très beau, ce commissaire, on pourrait facilement craquer pour lui.
Moi, j'aurais rêvé d'avoir une aventure avec le commissaire. Mais bon, apparemment, ça se faisait pas.
Pour l'instant.
Voilà. Il était feng shui, je sais pas, moi il y avait un truc qui me... Son petit bac à sable là dans son bureau. Moi,
il vous a mis sur écoute, ça c'est quand même le.
Ah, ça c'était pas cool.
C'est qu'il est hanté.
Il n'avait pas le choix.
Il est hanté. C'est peut-être mal ça. Bah ouais, il est hanté, il est omnibulé, il est.
Peut-être qu'en fait c'est de l'amour.
C'est Amir El-Kassem dont on parle.
Ouais, Amir El-Kassem. Mais qu'est-ce qu'on a pris à jouer des scènes où vraiment on est aux antipodes. Mais oui, ce commissaire, il est sexy, il a toujours des costards parfaitement repassés. Moi, ça me paraît dingue de repasser des fringues. J'aurais rêvé d'une petite love story avec le commissaire, mais je pense que c'était vraiment compliqué.
Bah, en tout cas, les scénaristes, s'ils nous écoutent, savent que dorénavant, ils doivent créer une histoire d'amour entre la juge et la procureure et une histoire d'amour entre la commissaire.
Pécho, le comico.
Très bien, comme ça le message est passé. Mardi, donc, deux nouveaux épisodes à 21h10 de Face à Face. Premier épisode qui concernera justement un couple séparé franco-allemand et qui est responsable de la garde d'enfants, mais avec quand même en toile de fond une scène de crime, un meurtre qui est commis sur une danseuse. Ça se passe dans les premières secondes, donc je ne spoil rien. Et l'autre épisode concerne un animal, la défense de la souffrance animale. Un cheval qui, pour certains, devrait être euthanasié, pour d'autres, a été empoisonné, et pour d'autres, a été lui-même l'objet d'une agression, et donc représente un danger pour les personnes malades, puisque c'est dans un centre d'équithérapie où la scène se passe. Toutes ces sujets donc sont abordés dans les deux épisodes mardi soir 21h10 sur France 3 Face à Face. Voici Tanguy Passureau.
La France est en train de sombrer, les amis. Déjà au supermarché, il y a plus d'œufs de poule. Hein, hier, j'ai essayé de faire une omelette sans œufs. Faut avoir envie de manger du beurre fondu. Au salon de l'agriculture, il y aura pas de vaches à cause de la dermatose. Les politiques qui leur caressent la croupe, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se caresser eux-mêmes? Je suis pas contre, mais je suis pas sûr que dans un salon familial, voir Darmanin en train de se caresser devant l'enclos des chèvres soit adapté. Et en plus, il y a plus de bébés. C'est tombé mardi. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre, le nombre de naissances est inférieur à celui de décès. Là, par contre, ça y va. Ça canne. Bientôt, il n'y aura plus que des morts chez nous. Le Père Lachaise, il va falloir monter des étages et il n'y aura plus un vivant pour le faire visiter, à part Drucker qui sera devant le portail et qui dira, moi, c'est toujours non, ok? Je ne comprends pas qu'on en soit arrivé là, parce que j'aime les seniors, surtout les CSP+, qui viennent me voir en spectacle. Mais les bébés, c'est quand même plus mignon. Jamais personne n'a stoppé net devant un vieux en disant, oh, qu'il est chichou, le bobo, comment il s'appelle? Et là, il y aurait son fils de 31 ans qui dirait, bah, c'est René, quoi. Moi, j'adore les vieux. Sur l'échelle d'Emma Beaujean, j'en suis un, ainsi que vous tous. Mais qui va payer ma retraite, moi, si les jeunes ne se reproduisent pas? Je sais pas si j'ai des fans jeunes, mais s'il y en a, allez hop, sous la couette, les feignasses. Je vous donne le mode d'emploi. Au lieu de scroller votre téléphone à la con, vous scrollez le boyfriend ou la girlfriend en vous arrêtant avant le menton, sinon c'est une pichenette. L'autre, excité, va tenter de faire ce qu'il a vu mille fois sur YouPorn. Donc dites-lui, ça c'est non, ça non plus, et là on va se faire un claquage. Vous la jouez old school. Un commotant de Lino Ventura, quoi. Un truc vite exécuté, ensuite le gars remet son feutre sur sa tête pour acheter des gauloises. Dans 9 mois, il y a un bébé. Je crois qu'on intellectualise trop les choses. Est-ce que c'est le bon moment? Ai-je un réel désir d'enfant? Serais-je une bonne mère ou un bon père? Dans l'ordre, la réponse est oui, peut-être, et tu feras ce que tu peux. Alors, étudions les chiffres. Enfin, une chronique informative. Le service public aura vécu 2-3 derniers moments de dignité avant d'être vendu à Vincent Bolloré par le président Bardella. D'abord, pourquoi meurt-on? Eh bien, pour donner un sens à la vie. Si on était immortel, on n'en foutrait plus une rame, puisqu'on aurait le temps. C'est-à-dire que Laurent Voulzy, qui a déjà pas sorti 1000 albums, là, il serait encore sur la première maquette du Cœur Grenadine. À sortir une chanson par jour, finalement, il y a que Jul et Oldelaf. Hein, sur les deux, il y en a un qui a fait une belle carrière, parce que l'autre n'a pas réussi à entrer à la bande originale. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on meurt maintenant de manière massive? Bah parce que la génération du baby-boom est en train d'y passer les 68 heures en 80 ans. Ils font moins les malins. Fini de faire les kékés en haut des barricades. Aujourd'hui, le marchepied du TGV, c'est déjà un obstacle. Maintenant, prenons l'inverse. Pourquoi fait-on moins d'enfants? Par peur qu'un jour, ils s'inscrivent à The Voice Kids et qu'au moment où ils glapissent le refrain de la chanson Ciel de Gims, on se mette à les haïr? Oui, mais pas seulement. Les spécialistes parlent du coût du logement. Forcément, dans un F2, on n'est pas 8, hein, ça c'était germinal. À moins de faire des enfants minuscules, qu'on confie à la naissance à des maîtres bonsaïs qui les foutent dans des bocaux pour empêcher qu'ils grandissent, bon, il n'y a pas de solution. Ensuite, il y a l'inquiétude climatique. C'est-à-dire, quand on nous répète H24 que l'océan va submerger et être tard, avant même qu'on ait pu tourner la suite d'Arsène Lupin, on angoisse. Moins qu'Omar Sy, mais on angoisse. Et on ne fait plus de bébés parce qu'il faut être détendu pour en faire. Pas trop non plus, sinon ça marche pas, mais bon. Et il y a aussi le report des maternités, parce qu'on se dit, ça va, j'ai le temps. On congèle ses ovocytes à Barcelone, on en profite pour faire la grosse fiesta, on mange des tapas, on boit une sangria, puis 14, on couche avec un espagnol, ces gens musclés qui ont des coupes mulets, on tombe enceinte et on se retrouve défoncé à 4h du matin, hurlé devant la clinique, passer des ovocytes au micro-ondes, parce que c'est bon. Moi, je trouve qu'on devrait congeler les gens. Voilà, chez Picard, on les mettrait, vous savez, dans les armoires réfrigérées, à côté des Mister Freeze, et quand un client aurait envie de faire un enfant, hop, on prendrait Chloé sous le bras, on attendrait qu'elle décongèle, elle donnerait son consentement, elle dirait qu'est-ce que j'ai raté, on répondrait rien, hein, en pensant enfin si, le Venezuela, l'Iran, le Groenland, le duo Benabar, Pascal Obispo quand même. Et là, non seulement on enfanterait. Bon, ok, ça tient pas la route. Hein, surtout que pour mettre des gens chez Picard, il faudrait retirer les sticks de mozzarella des frigos, alors qu'ils sont vraiment trop bon. Et ce matin, je parlais de ça avec Daniel Morin, mon idole, parce que c'est vrai qu'on a de grandes conversations sur la société. Je lui ai dit, malgré tout ça, la population en France augmente. Et il m'a répondu, tout bas, hein, bah oui, mais tu sais pourquoi.
Oula.
Je lui ai dit, vas-y, lâche-toi, bonhomme. On a reçu Sarah Knafou et Mathieu Boccoté. C'est fini la radio des gauchos. Et il m'a soufflé, c'est à cause du solde migratoire. Le pauvre tremblait à l'idée que Nagui arrive à ce moment-là et entende ça, parce que ça aurait été la rupture de ce duo mythique qui nous aura tant fait rêver. Et c'est vrai, si la population augmente, ce qui est obligatoire pour notre système économique, parce qu'on a choisi le capitalisme, qui implique plus de consommation, de production, de bouche à nourrir, de croissance, toujours, toujours, toujours plus de tout. C'est à cause, ou grâce, selon ce que vous pensez, aux immigrés. J'ai alors dit à Daniel, combien tu as d'enfants, toi? Il m'a répondu, je sais pas, les années 70 à France Inter ont été olé olé. Hein, et moi, je lui ai dit, bah, j'en ai un seul. Est-ce en comptant sur moi qu'on va repeupler ce pays ? Nous sommes inquiets, stressés, énervés, pas bien. Les rares d'entre nous qui meurent pas sont chez le psy. Forcément, le désir d'enfant est relégué au second plan. J'aimerais pas être le PDG de la boîte qui fabrique Sophie la girafe, parce que c'est pas avec des migrants de 27 ans qu'on va réussir à vendre ces trucs.
Tanguy Pastureau.
Tanguy Pastureau qui sera à Palavas les Flots, ce sera le 7 mars prochain.
Ou alors, il va enfanter, on ne sait pas.
Palavas, peut-être. Pourquoi pas.
Pardon ?
C'est trop tard. J'en ai un, c'était déjà fatigant.
Il n'a pas trop posé.
Non, t'es pas obligé de t'en occuper.
Qu'est-ce que je fais là ?
Mais oui, c'est vrai. Regarde, il a.
Quelle idée.
Face à face sur France 3, 21h10. Claire Borotra, Constance Gay sont nos invités. D'autres événements culturels.
Oui. Là. Je vais vous donner un exemple de menu. 1 litre de glace à la menante, pépites de chocolat, du poulet frit, 6 verres de bière. D'après vous, ce menu pourrait correspondre à qui et à quoi, surtout? Ça nous vient des États-Unis. Est-ce que vous avez une idée?
C'est le menu de quelqu'un?
C'est pas Trump, c'est le menu d'une personne en particulier.
Un copain de
Mais
Trump.
Pas quelqu'un qu'on peut identifier, il fait partie d'une grande catégorie. Nous sommes aux États-Unis.
Un super-héros?
Non.
Un prisonnier?
Pas moyen d'un
le riche?
Le dernier repas
aux États-Unis avant l'exécution. Exécution qui est légale dans 27 États. C'est un rituel avant ces
Donc
exécutions.
Dans une majorité d'États en fait. 27 sur
50. 27 sur 51, c'est ça?
50. Mm-hmm.
51
avec le Canada,
ça dépend comment on compte, voilà.
72 avec l'Europe.
Depuis 1977, en fait, il y a eu 1654 exécutions aux États-Unis. Dans certains États, en fait, on a le choix, on demande ce qu'on veut. Ce qu'on veut dans une limite de faisabilité et de dépenses, parce qu'on peut aussi faire des commandes à l'extérieur. Mais par exemple, dans l'État de Floride, faut pas excéder 34 € pour ce dernier repas. Dans d'autres États, vous choisissez parmi une liste de plats qui vous sont proposés. Dans d'autres, vous n'avez pas du tout le choix. Pourquoi ? Parce que ça a été une façon, dans cette peine de mort installée aux États-Unis, d'introduire un petit peu d'humanité. Voilà, toujours.
Cool, attends, ça va.
De même que vous avez le droit à la présence d'un aumônier et à une dernière déclaration. C'est une façon d'encadrer un rituel qui est difficile à
considérer. Il faut être en bonne santé.
Il faut être en bonne santé.
Il faut être en bonne santé.
Pour mourir.
Si tu es malade, tu n'es pas exécuté. On attend que tu sois guéri.
Ah, ouais. C'est vrai. Voilà. Je l'ignorais. Bravo.
C'est pas grave.
Visiblement, tu t'es documenté en tout cas.
Ouais. Je suis concerné. J'ai attrapé une seule grippe et ça m'a sauvé.
En tout cas, je confirme qu'il y a 50 États aux États-Unis.
50 États. Ouais. Quand c'est fait par la prison, c'est préparé par un autre détenu. Donc certains détenus ont pu raconter qu'ils n'étaient pas condamnés à la peine de mort, qu'ils ont pu concocter comme ça plus de 300 repas. Donc c'est quand même une chose de faire à manger, mais faire à manger en disant que ce sera le dernier repas. D'un autre homme, c'est autre chose.
C'est plus détendu si tu le rates.
C'est vrai. Et certains détenus en ont profité pour faire ça, pour en faire des gestes de contestation, c'est-à-dire commander un repas et refuser de le manger, pour dire que là encore, il y a face à l'institution encore des réticences, il y a encore un combat qui se mène aux États-Unis sur la peine de mort. Je ne vais pas vous demander le dernier repas que vous pourriez demander l'une et l'autre, mais justement, quel est le repas dans lequel vous pourriez mettre le plus d'amour, justement. Le plus d'amour pour quelqu'un, si c'est son dernier repas. Ouais, absolument. Ouais.
De la pasta. la vraie pasta. Parce que la pasta bien faite, c'est... Mais le faire soi-même, c'est ça? Pour quelqu'un. Mais c'est terrible.
C'est un cadeau qu'on fait à quelqu'un.
Mais
moi, le cadeau que je fais,
c'est plutôt d'éviter, enfin d'épargner ma cuisine.
Un verre d'eau. Ce sera ton dernier repas. C'est un verre d'eau.
C'est vraiment pas votre truc, Claire?
Je fais quelques petits... j'ai des plats signatures, mais...
Madame. Ça veut dire quoi?
C'est pas une signature, on m'a dit que c'était juste une paraphe. C'était que les initiales, c'est même pas la signature.
Je savais pas que tu cuisinais pas.
Je cuisine un peu, mais je connais mes limites.
Vous alimentez quoi. Voilà. C'est ça.
Non, mais je fais à manger un petit peu, mais bon, je souhaite à personne qui va mourir de manger ce que j'ai préparé juste avant.
C'est pour aller plus vite.
Ou alors, ça relativise la mort, potentiellement. On se dit, c'est peut-être pas si grave.
C'est peut-être une solution.
Autre question. Allez, on va au musée, on va à Paris pour une exposition. Une exposition où vous allez pouvoir voir tout un tas d'objets
C'est fou pour une exposition.
Les objets du design au musée des arts décoratifs, je vais absolument y aller.
C'est Flop, le nom de l'exposition.
Ça s'appelle Flop ?
Bah oui, je vous en ai parlé souvent, cette exposition, elle est souvent à l'étranger, et en fait, ça y est, elle est arrivée en France. Flop, ah. Oser, rater, innover. Pourquoi ? Parce que il y a des objets qui ont été soit retirés du commerce parce qu'ils étaient dangereux, soit qui ont été boudés parce qu'ils n'ont pas fonctionné, ou parce que la marque qui les a lancés n'était pas du tout associée à ce genre d'objet. Je pense à une marque de dentifrice célèbre qui s'est lancée dans des lasagnes. Et ça n'a jamais marché parce que les gens voyaient le nom de la marque de dentifrice en disant « Mais attends, mais c'est bizarre, ils font des lasagnes. » Mais en fait, vous voyez comme quoi il faut parfois...
C'était quoi, c'est Signal ?
C'est Colgate. Voilà.
Il faut en dire une troisième. Troisième.
Voilà. Ne pas célébrer que la réussite dans la vie, mais célébrer aussi, valoriser l'échec, parce que sans l'échec, il n'y a pas d'avancée. Alors vous pouvez trouver là-bas, par exemple, une crème de beauté, mais qui à l'époque était à base d'éléments radioactifs, parce qu'on pensait que c'était très très bon pour la peau, qui a été retirée.
Voilà, Mélodie, t'as bien fait d'arrêter.
Il y a même une eau minérale en Bretagne qui s'appelait l'eau radioactive. On l'appelait comme ça parce que c'était bien pour le corps d'avoir de la radioactivité.
C'est fou. Ah ouais, bah voilà. Il y a une fourchette rotative à spaghetti. Pour ceux qui ont un peu la flemme.
C'est bien ça.
Bon, voilà. Ça n'a pas fonctionné non plus. Dans les autres exemples, par exemple, une sauce tomate que l'on connaît tous, qui est rouge, sauf qu'ils se sont dit, tiens, si on la faisait verte, couleur gazon, et en fait, les gens, du coup, qui a le même goût que la verte, la rouge, mais personne n'a adhéré parce que tout le monde se dit,
mais c'est vrai qu'il y a des tomates vertes aussi.
Voilà.
Et pareil, chez Truffaut, le gazon rouge, ça n'a pas marché.
Ou encore une poupée qui mâchait des légumes en plastique, sauf que le problème, c'est que si tu mettais ton doigt, elle mâchait aussi ton doigt. Alors, c'était un peu... Donc il y avait des inventions dangereuses. Il y a des inventions qui sont responsables de morts de gens aussi.
On voit ça où
un jeu de fléchettes qui a tué plein de gens aux États-Unis.
C'est génial.
Parce que c'était tellement affûté, en fait. Que... Pardon, c'est pas drôle.
C'était des haches.
Il y a eu beaucoup de blessés et il y a eu des
haches.
Voilà, c'est ça. Oh, bref, les flops, l'échec dans la vie. C'est quoi votre nouvel échec ?
Elle est où l'expo ? Parce que ça
elle a au musée des arts décoratifs à Paris. Votre plus bel échec.
Moi, il y a un très joli livre qui s'appelle Les Vertus de l'échec de Charles Pépin.
Oui, absolument.
Quand vous avez des enfants ou des adultes qui n'aiment pas perdre, ça arrive. quand vous jouez, c'est vraiment un très très joli livre, très intéressant à offrir à vos amis ou à vos enfants.
Moi, je gagne toujours, donc
on apprend beaucoup plus de ses échecs que de ses réussites.
Énormément.
Ça, c'est vrai. Justement.
C'est pour ça que je sais beaucoup de choses.
Donc, quel est l'échec qui vous vient en tête,
Constance ? Votre plus bel échec, un bel échec, parce que ça peut mener à...
À chaque fois, je réponds ça, le conservatoire.
Est-ce qu'on vous le demande souvent ?
On me l'a demandé la semaine dernière.
Ah bon ?
Et si tu cherches trop longtemps, ça fait vraiment la meuf qui a tout réussi, donc voilà.
On oublie les échecs, peut-être.
Le conservatoire, ça fait mal. Hein.
Ok.
Ouais.
De loin ?
Ah non, 3 fois, 3e tour.
Ah waouh.
C'est bon. Ouais. Non, ça, ça fait mal, par exemple.
Ouais. Moi, j'en ai plein, là, franchement. On a le temps.
Un nombre d'échecs.
Ma vie a été parsemée d'échecs. Non, je me souviens d'un film où Paris était envahi par les rats. Ça n'a pas été un échec de public, parce qu'à l'époque, on faisait 9 ou 10 millions de téléspectateurs. Oh, mais en revanche, c'était un film catastrophe où les gens, je me souviens qu'il y a eu une projection dans un festival où les gens riaient.
Alors qu'il devait avoir peur.
Et alors que c'était censé être vraiment être un truc qui faisait hyper peur, avec Thierry Neuville, que c'était le bon côté quand même du film. Mais j'ai le souvenir. Et à partir de depuis ce temps-là, je ne dis plus quel genre est le film que je fais. Parce que tu fais des comédies quelquefois, ce qui se transforme en drame où tout le monde est là. Oh mon Dieu, c'est tellement horrible.
C'est un souci quand même si une comédie se transforme en drame.
Oui, c'est quand c'est nul, par exemple.
Est-ce que c'était Alerte à Paris ?
C'était
la série dont vous parlez.
C'était exactement ça.
C'est ça. Pour parler de l'avenir, vous avez tourné avec Julie Gayet dans le téléfilm Le Train Perdu, d'Aude Conny Goubert.
Oui, c'est ça. Et avec Janice Zellabrick.
Voilà, qui sera diffusée bientôt sur France Télévisions. C'était dans le sud.
Au lac de Serponçon. C'est un train qui a disparu. Ça, j'avais jamais fait.
C'est une histoire vraie ?
Non. Non.
Je sais pas.
Ça pourrait, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Enfin, je sais pas. Avec ses passagers.
Et il y a également OPJ, dont l'intrigue se déroule
sur l'île de la Réunion.
De la Réunion.
Quel bonheur, quelle bonne idée.
Et toujours le festival de littérature, évidemment, l'invitation au voyage que vous avez
créé. 10e année, un festival complètement gratuit qui nous permet d'aller chercher et de reconnecter avec la culture des gens qui n'y ont plus accès.
11e édition cette année, vous avez la date déjà en tête à Biarritz, ça se passera ?
Oui, ce sera le 20-21 octobre, le premier week-end des vacances de Toussaint, et le thème ce sera en musique.
Et Constance Gay, on vous retrouvera dans Été 36 sur TF1. Et puis il y a Flashback aussi qui va revenir avec Michael.
Oui, oui, oui. On a fini le tournage de la saison 2 de Flashback le 23 décembre. Et Été 36, on l'a fini l'été dernier. Mais c'est époque et c'est long à monter.
Merci en tout cas d'avoir trouvé le temps dans votre planning à l'une et à l'autre de venir nous parler de Face à Face. Je rappelle, c'est mardi 21h10, la diffusion de la fin de cette saison 4, entièrement disponible pour ceux qui veulent la binger sur France.tv. Des excuses à présenter, Daniel.
Absolument désolé pour Constance Gay et Claire Borotra, nos invités, qui ont déjà tourné 4 saisons, à savoir 38 épisodes, 38 heures à l'écran, et qui ont découvert que ce que préférait Leïla dans la série, c'était ça.
C'est
ce qu'on appelle le sens de l'accueil. Léa qui a rajouté qu'elle aimait bien aussi la pub qui passait après les épisodes.
C'est
un choix. Désolé pour la Sorbonne, le Collège de France, l'École Polytechnique, l'Académie française, bref, toutes les grandes institutions qui nous ont contactés quand ils avaient entendu la rythmique, le sens de la poésie de Mélodie Fontaine, à savoir son ébouriffant. Ils trouvent que c'est intéressant, ils ont envie de l'embaucher. Et... Oh là là là, attention, là ça sent le prix Nobel, voire le prix Goncourt.
Ça sent, t'es sur le bout.
Alors, à noter que Météo France également est intéressée par Mélodie Fontaine. Désolé enfin pour nos amis auditeurs allemands, qui nous écoutent nombreux du côté de Stuttgart. Amis allemands qui ont été très mal à l'aise, qui ont très mal pris la réaction épidermique de Nagui en début d'émission à leur rencontre, réaction à base de « Ah ça, faut se méfier des boches, c'est clair. »
Jamais dit ça.
Et si à la pause, vous l'avez dit 10 fois. Alors, ok, je comprends. Et finalement, Nagui aussi. Il s'est engagé à faire une bande originale spéciale Yodel, Strudel et Art de Vivre. Ça va être trop bien, j'ai tellement hâte.
Le rendez-vous est donné, ça sera... la gêne.
Non. Pas du tout. Taratarage, quoi.
Ça peut finir par arriver, faites attention.
Oui, c'est ça, oui. Exactement ce que je voulais dire.
On croise les doigts.
Mardi, Face à Face.
Moi, vous aurez du travail.
Ça sort. En plus, ce sera sur France 3 avec Constance Gay et Claire Borotra. Merci mille fois d'être venu, passez une belle journée.
Merci.
Demain, c'est Philippe Besson qui sera notre invité.
Merci.